Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord. Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Le festival de Cannes approche, mais il reste encore quelques films. Eh bien, sur les écrans, bonjour, c'est Cinérama, bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et bonjour Manu.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, un sommaire avec au moins une interview, celle de Merzak Alouache pour le film Les Terrasses, qui sort ce 6 mai. Et puis un blind test, nous jouerons un blind test à propos de Conas, le film qui sort, puisque c'est adapté d'un sketch, télévisé.
D'une mini-série télévisuelle sur Canal, donc Conas, de Noémie Saglio. Et puis je vais vous parler aussi d'un autre film réalisé par une femme aussi, Le Tournoi de Élodie Namer.
Voilà, et ce sera l'occasion donc de jouer un blind test avec des films qui sont adaptés de séries sorties au niveau planétaire. Et toi Manu ?
Je vais un peu innover, je vais vous parler des films que je n'irai sans doute jamais voir, surtout en cette période avant Cannes où il n'y a pas grand-chose qui sort. Et puis si j'ai le temps, je ferai une chronique sur un grand film de Roger Corman, The Intruder.
Parce que c'est ta nouvelle série, celle sur Corman. C'est Cinérama qui débute avec My Old Lady.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Cinérama.
Connerie, je vous dis. Et même saloperie,
My Old Lady, premier film d'Israël Horovitz, dramaturge américain, qui, s'il a déjà écrit des scénarios pour le cinéma, n'avait jamais assemblé des images. Alors, pour ses débuts, rien de mieux qu'un texte qu'on connaît bien. Et Horovitz s'est donc permis d'adapter sa pièce, jouée en France sous le titre de Très chère Mathilde. Et il s'est attaché les services d'acteurs qui n'ont plus grand-chose à prouver. Kevin Klein, qu'on a vu notamment dans Un poisson nommé Vanda, c'est ça qui l'a mis devant la scène. Et puis Maggie Smith, comédienne de théâtre et professeure dans Harry Potter, et puis Christine Scott Thomas. Alors cette dernière est arrivée sur le projet alors qu'au début, c'était Jane Birkin qui était pressentie à choisir mieux vaut l'actrice que la chanteuse. S'ajoute à ce casting Dominique Pignon, l'acteur de Jeunet et Caro. Il y a aussi De Groot et puis Noémie Lovski et puis Stéphane Fraisse qui viennent donner des répliques microscopiques. Car l'essentiel du film s'articule autour de trois personnages. Alors il y a d'abord Mathias, la cinquantaine. Il est New-Yorkais, divorcé et sans ressources. Il débarque à Paris pour vendre la maison qu'il a héritée de son père. Mais il découvre, alors que ce magnifique hôtel particulier dans le Marais est avec un jardin, qu'il y a un viager. Voilà. Donc bienvenue le cadeau d'adieu, lui qui pensait hériter d'une belle fortune en revendant le bien illico, se retrouve à payer une rente. Et pour l'instant, il est bloqué à Paris. Il y a ensuite les habitants de l'hôtel particulier. Il y a Mathilde, 92 ans, et qui semble-t-il a une santé de fer, essentiellement due, selon elle, au bon vin qu'elle boit. Et puis il y a sa fille Chloé. Voilà. My Old Lady est avant tout une douce comédie qui peu à peu nous emmène vers un drame familial qui dénoue les non-dits et les relations cachées. Alors dans le premier temps, Mathias, l'Américain, est confronté au problème du viager. Il a la compréhension de l'ancienne propriétaire de l'hôtel particulier et puis de l'hostilité de sa fille qui voit déjà un pan du patrimoine familial filer. Et puis, à mesure que le film avance, Horovitz confronte les personnages et émerge alors du passé les liens qui unissent ces trois personnages. Il y est question d'adultère, de drame, d'abandon, de résignation, de quoi palabrer une bonne heure. Comme il s'agit de l'adaptation d'une pièce de théâtre, le film hérite de cette tirade, mais elles n'alourdissent pourtant pas le propos. Le plus surprenant dans ce film, au-delà d'une mise en scène sans éclat, est l'enfermement de Paris dans l'image de carte postale. D'abord, l'hôtel particulier dans le Marais, les péniches, le Sacré-Cœur, les tout y passe, sauf Montmartre. Alors d'accord, c'est un Américain, mais quand même, on aurait préféré une autre vision de Paris. L'écriture de My Old Lady reste bien maîtrisée, le mal-être des enfants face aux parents qui ne savent pas s'aimer, l'héritage sentimental, les secrets familiaux, la filiation, autant de thèmes traités avec douceur et une pointe de rire ou de sourire plutôt par Horovitz, qui, je crois, a 75 ans pour son premier film, c'est pas si évident que ça. C'est là l'une des réussites, en tout cas, de ce film, c'est surtout les dialogues et les situations. Donc, réussite de ce film qui a l'avantage d'être bien interprété. C'est My Old Lady qui sort ce 6 mai.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Camille Cotin est devenue depuis 2 ans l'incarnation type de la connasse qui fait les beaux jours de Canal+. La connasse n'a ni véritable âge, ni conditions sociales, surtout aucun métier, et pas même de nom. Elle est surtout reconnaissable à la considération démesurée qu'elle se porte, proportionnelle à son mépris pour le commun des mortels. La connasse est trop bien pour ce monde et souffre de l'incompréhension de la plèbe quand elle ne s'attire pas carrément la haine de ses congénères à force d'être mal polie. Cette mini-série humoristique reposait entièrement sur le principe des caméras cachées. La connasse et son comportement parfaitement imbuvable étaient filmés dans des situations de tous les jours. L'intérêt de la série reposait donc non pas sur les réactions des gens, mais surtout sur le jeu de Camille Cotin, comédienne qui a depuis pris ses marques dans d'autres films qui commencent à asseoir sa position dans le cinéma français. Comme d'autres avant elle, la connasse passe aujourd'hui au cinéma. C'est peu de le dire, beaucoup se sont cassés les dents lors de leur passage sur le grand écran et cette adaptation était risquée puisqu'elle comptait reprendre le même procédé de caméra cachée décliné non pas sur 5 minutes mais pendant 1h30. Il fallait donc trouver un scénario prétexte et surtout offrir à la connasse, qui commence à être un peu trop connue en France et surtout à Paris, un nouveau terrain de jeu. Dans Connasse, princesse des cœurs, la jeune femme décide donc, après avoir constaté que le travail n'était pas pour elle, de se trouver un époux royal qui la mette à l'abri du besoin et lui fournisse le train de vie princier, pour lequel elle est de toute évidence faite. Après une courte revue de presse des magazines People, l'évidence s'impose, elle doit épouser le prince Harry. Commence alors un voyage périlleux, enfin surtout pour les pauvres Anglais qui vont croiser sa route.
Excusez-moi les impôts, mais ça vous empêche pas de dormir, de nous demander de l'argent qu'on a déjà dépensé.
Ok les grosses, on est parti.
In your country, in Japan, you have traffic.
We're Philippines.
Yeah, it's the same.
J'ai absolument pas la vie que je mérite et je veux plus jamais travailler.
Voilà.
Vous deviez épouser un prince, vous choisiriez qui?
Si j'étais vous, j'épouserais le prince Harry d'Angleterre, non?
Oh, le roux, là?
Allez, en route, je vais à Londres.
Oh! But the cars are not going the right way, bordel de shit!
What you want to do is you want to minimize the space.
Oh no!
I have to sit like you, like a bonne sœur.
Henri, ça capte pas, là! J'ai pas de réseau! Ils sont trop épais les murs, hein.
C'est donc le premier film entièrement tourné en caméra cachée, ce qui peut soit vous procurer un incommensurable sentiment d'admiration face aux stratégies déployées pour piéger les participants du film, ou au contraire, irriter au plus haut point les cinéphiles qui n'auront pas le moindre plan potable à se mettre sous la dent. On admire l'énergie kamikaze de Camille Cotin qui, de scène en scène, n'hésite pas à se jeter dans des situations honteuses, voire dangereuses, hein, puisqu'elle va jusqu'à escalader les grilles du Palais Royal. Elle se retrouve quand même au poste plus d'une fois dans le film. Mais l'ensemble est quand même beaucoup moins drôle que prévu. Quelque chose sonne faux, sans doute le fait que les dialogues soient redoublés, ce qui permet de douter quant à la véracité des réactions et de l'improvisation des gens. Et puis les gags sur le fait que les Français parlent mal anglais, du genre « excuse me, I don't speak English », on commence juste à en avoir marre quoi, dans les comédies françaises. On ne fait que des blagues là-dessus depuis 50 ans, ce n'est plus drôle. Voilà, donc c'est pas un ratage, hein. On a quand même fait largement pire hein, dans le genre séries qui passent à la télé et qui sont transposées sur grand écran. Mais ça ne restera pas non plus dans les annales.
Merci Marine, et ça donne l'occasion, en tout cas, cette adaptation d'une série télévisée pour le grand écran, eh bien, ça donne l'occasion de jouer un blind test.
Cinérama.
Oh non, ça suffit, de quoi s'agit-il, d'une blague?
Interview, chronique, blind test et tout le reste.
Merci.
Et nous allons jouer donc à un blind test. Alors le premier extrait, alors ça va être des films dans l'ensemble qui sont plutôt réussis. Premier extrait, peut-être facile.
À la demande de la municipalité de Chicago, le gouvernement fédéral et plus particulièrement le ministère des Finances ont décidé de lancer une opération exceptionnelle pour endiguer le trafic d'alcool et la violence qui en découle.
Alors Manu.
Trafic?
Non.
Non, pas du tout.
Incorruptibles.
Nous... Voilà, nous sommes à Chicago. Ah, oui, tout à fait. Vrai. Les Incorruptibles.
C'est de Palma en plus.
De Brian De Palma, hein, une série.
Manu.
De... Eh oui. Eh oui. On rappelle aux auditeurs que Brian De Palma est le maître hein, de Manu. Donc, 4 saisons, hein, Les Incorruptibles de 59 à 63. Et le film, lui, est sorti en 87. Deuxième extrait d'un film adapté d'une série.
Si par malheur cette liste fait surface, les noms de nos agents de tous les pays d'Europe de l'Est seront mis en vente au plus offrant. Terroristes du tiers-monde, trafiquants d'armes, gros bonnets de la drogue, tous ceux qui rêvent d'éliminer les vieux routiers clandestins dans notre genre. S'ils sont démasqués, ils seront exécutés. Voilà. Je dirigerai les opérations de mon nid d'aigle. Chacun connaît son rôle. Voyons maintenant les détails.
Alors, c'est la mise au point d'une opération, c'est...
Mission impossible. Voilà. De Palma encore.
Oui, De Palma, une nouvelle fois. Adaptation d'une série de 7 saisons, hein, de 66 à 73. Un troisième extrait, et c'est très rare, mais celui-ci sera en version originale.
Listen, I'll listen carefully. I've been to one of their meetings.
Oh ben, je pensais pas que vous auriez séché.
Ah bon ? Ça me dit quelque chose, mais...
Alors, c'est une série un peu particulière, forcément. On voit,
Ah oui, c'est Twin Peaks.
Voilà, toi, Twin Peaks. Ah. Eh oui, série de David Lynch, hein, deux saisons, de 90 à 91. Et puis, le film a été tourné bien dans la foulée, un film de 1992. Et là, c'est l'histoire d'une espèce de monde parallèle où les dialogues sont en fait dits à l'envers. Encore un film des années 2000.
Alors, comment c'était ?
De quoi tu parles ?
Votre promenade dans le monde.
Ah, ça. J'ai fait un tour, rien à dire.
Un tour ? Vous vous foutez de moi ? Je parie que c'était plus que ça.
Plus que quoi ?
Je sais pas si c'était moi. Je foutrais les boules à tout le monde, je leur chuchoterais des conneries. Je me planquerais dans les défilés de lingerie. Je serais vraiment le roi !
C'est infantile, tu ne crois pas ?
Non.
Mais il était tard. Je ne suis pas sorti longtemps.
Vous avez eu personne ?
Il y avait cette femme seule.
Ouais ? Et est-ce que vous l'avez ?
Non. Enfin, je lui ai fait peur, je crois.
Ah ouais ? Ça vous a fait quoi ?
J'ai adoré.
Génial !
Il fallait attendre qu'il tue la mouche. Marine s'est trouvée.
Ouais, c'était l'homme invisible.
Voilà. Film de Verhoeven, oui.
Oui, non, mais c'était pas une série à la base. C'était un roman qui a été.
Ah, ben si, ils ont fait une série de 13 épisodes.
Une série avec David McCallum, ouais.
Oui.
Mais avant, c'était quand même.
Ah, oui, d'accord.
Ça a déjà été adapté. Au cinéma.
D'accord. Ah, oui. Oui, je ne suis pas rentré dans ces détails, Manu, mais tu as raison de le préciser. Dernier extrait, on va terminer par une comédie.
La voix de chaque individu est unique, elle a une signature unique. Comme, disons, comme un flocon de neige, et on peut la cartographier comme une empreinte digitale.
C'est un audio ADN, et ça rend impossible de maquiller ou de brouiller un signal vocal.
Et c'est précisément pour ça que Corwin le veut.
Évidemment. Tous les satellites de communication Red Star sont équipés d'un dispositif GPS. Si on combine ça avec la reconnaissance vocale,
Red Star pourrait transformer tous les téléphones cellulaires en mouchards.
Personne ne pourrait se cacher. Vous imaginez si ça tombait en de mauvaises mains, le danger que cela représenterait ? Ce serait la fin de la vie privée.
C'est là que vous entrez en jeu, les filles. Corwin fait rouler pour la première fois sa Formule 1 Red Star sur le circuit de Californie.
C'est l'occasion d'aller en reconnaissance. On n'a qu'à implanter une caméra espion sur Corwin.
On dirait que c'est parti pour la course, les filles.
Voilà, bon.
Allez les filles, on y va.
C'est un peu cliché, c'est pour ça que j'ai choisi cet extrait où on entend des femmes plus un haut-parleur.
Charlie, voilà. Je suis Charlie, enfin, c'est drôle de dame.
Donc Charlie et ses drôles de dames, c'est un film sorti donc en 2000, et puis donc avec Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu, et donc 5 saisons, hein, de 76 à 81 pour la série. Ainsi s'achève donc ce blind test.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi ça, une blague ou quoi ?
Et oui, c'est à toi, Manu. Hein, tu vas nous parler bien des films que tu n'iras jamais voir.
Ah oui, j'innove donc avec un exercice de style, hein, évoquer donc les films que je n'irai jamais voir. Alors je ne vais pas cacher que donc cet exercice cache une véritable mauvaise foi qui est assumée. Mais comme on ne peut pas tout voir, il faut bien faire des choix. Alors ce n'est absolument pas une posture critique, puisqu'il en va de même pour les spectateurs qui, selon les bandes annonces, les acteurs, l'histoire, le matraquage publicitaire, décident parfois de s'abstenir sans parler de boycotter. En fait, hein. Et au prix où sont les places, je peux aisément les comprendre. Alors d'ailleurs, je citerai un écrivain de polar, auteur culte de la position du tireur couché et le petit bleu de la côte ouest, Jean-Patrick Manchette, qui écrivait des chroniques dans Charlie Hebdo sans jamais avoir vu les films. Et il se les faisait raconter par son fils, Doug Headline, qui a d'ailleurs réalisé un très mauvais film depuis, qui s'appelle Brocéliande. Et oui, tu l'as vu, Marine ?
Oh non, bah justement, je me suis abstenue.
Bah voilà, tu t'es abstenue. Donc, dans un entretien, il avoue son méfait, qui était aussi pour lui une manière de dire que n'importe qui peut parler de cinéma sans avoir rien vu ou en s'endormant passer le générique. Alors, un exercice de style littéraire, mais aussi une critique de la profession particulièrement pertinente, car au fond, assez pratiquée. Je pense que notamment à Cannes, le nombre de critiques qui doivent s'endormir pendant les séances et en parler 3 mois plus tard au Masquer la Plume sans avoir revu le film, c'est assez courant.
Moi, j'ai vu dernièrement Laurent Cantet qui, lors de la projection presse de la Mostra de Venise, a entrouvert la porte de la projection presse et a vu des journalistes en train de lire leur portable et ne doit absolument pas regarder le film.
Bref, bah là au moins, vous savez que je n'irai pas voir les films suivants à moins d'un concours de circonstances malheureux. Et l'envie vient tout de même de cette envie de faire cette chronique vient de la pauvreté de la programmation depuis quelque temps. Donc je ne sais pas si je poursuivrai dans les prochaines émissions. Alors on va commencer sans doute par le pire, la mode des films de potes est sans doute ce qui reste de plus exaspérant actuellement. Alors après un déjà peu engageant Entre Amis, avec son casting de grabataire et son affiche vraiment hideuse, tout droit sortie d'une campagne pour l'UMP, voici Nos Femmes de Richard Berry, qui en est déjà à son 5e méfait en tant que réalisateur depuis des débuts calamiteux avec L'Art de la Séduction. Alors la bande-annonce, elle est tellement horripilante qu'il m'est impossible de comprendre qui a voulu produire une telle chose. En fait, en 2 minutes, on voit des acteurs, Thierry Lhermitte, Daniel Auteuil et Richard Berry, vraiment en roue libre, jouant comme dans le plus mauvais café-théâtre, alignant des dialogues affligeants, nous ramenant à la comédie rance et beauf des années 70. Alors Daniel Auteuil, qui fut à une époque un acteur quand même assez subtil, notamment chez Claude Sautet, et là il est en sur-régime et rappelle étrangement le jeu outrancier de Christian Clavier. Alors sans le visuel, on ne s'en rend pas compte, mais écoutez quand même ce concours de cabotinage.
C'est quelle adresse ?
Mais comment ça, quelle adresse ?
La mienne ou celle de Simon ?
Mais la tienne ! Tu donnes la tienne, il est chez toi ! I'm too
taboo. Alors le reste a l'air vraiment de ressembler à un vaudeville bien rance, bien misogyne, avec décor bourgeois et vue sur la tour Eiffel, enfin genre comédie de boulevard à la con, sauf qu'il manque ici Michel Balutin et ou Micheline Prels. Alors des films pareils nous font presque regretter le Au Théâtre ce soir. Alors on va parler d'un autre acteur qui passe à la mise en scène, cette fois c'est l'excellent Alan Rickman, le parfait méchant dans Piège de Cristal, qui se colle à un film de costume. Alors l'histoire édifiante d'une jeune femme invitée par la cour de Louis XIV parce qu'elle crée de magnifiques jardins. Alors bien sûr, elle va devoir se battre pour imposer sa vision. Alors ce qui est drôle, c'est que je ne me rappelle même plus du titre du film.
Les Jardins du Roi, c'est
voilà,
ça?
Voilà, c'est Les Jardins du Roi.
Par contre, la jeune femme en question, c'est Kate Winslet qui a quand même 45 ans, non?
Oui, pas loin, pas loin.
Si je me trompe pas.
Alors, à défaut de sentir le romarin ou toutes les saveurs d'un jardin, voilà, ça sent un peu le sapin. C'est vraiment le produit académique dans toute sa splendeur. Alors, des comédiens certainement impeccables, à la reconstitution sans faille, où rien ne dépasse, même pas un brin de folie ou d'émotion. Bref, je passe, mais on peut se tromper, mais vraiment, la bande-annonce aussi ne donne vraiment pas envie d'aller voir un film pareil. Alors, enfin, si My Old Lady... Donc tu as chroniqué tout à l'heure. Donc je n'en dirai pas plus à propos de ce film. Hein, tant pis, allez le voir si vous voulez. Moi, j'ai eu envie de m'abstenir parce que je trouvais que ça sentait un peu le film un peu gériatrique. Et effectivement, comme le réalisateur a 75 ans...
Et le personnage principal, 92.
92, oui. Donc c'est vrai que je me suis abstenu. Et puis un autre film aussi, Lady Grey, sur fond d'apartheid, me semble bien parti pour nous déverser une bonne tonne de bons sentiments afin de faire pleurer Margot. Alors il y a aussi Mélodie de Bernard Belfroy. Quelqu'un l'a vu ? Personne ? Non. Me semble l'archétype du pseudo-film d'auteur sympathique qui ne fait absolument pas rêver. Alors l'histoire, c'est Mélodie, modeste coiffeuse à domicile et prête à tout pour réaliser son rêve, ouvrir son propre salon de coiffure. Contre une importante somme d'argent, donc elle accepte de porter le bébé d'une autre et rencontre Émilie, riche anglaise, qui cherche désespérément à en avoir un. Enfin, rien que l'histoire, ça me déprime. Alors, je n'irais vraiment pas le voir, mais le point commun entre les 3 derniers films que j'ai cités, je vous le donne en 1000, Télérama les aime. Et oui, mais il ne faut pas toujours faire confiance à un hebdo qui dit sérieusement que Clovis Cornillac, à propos de son premier film, un peu beaucoup passionnément...
Aveuglément.
Et oui, c'est même pas passionnément.
Et non, c'est un jeu de mots.
Aveuglément est un bon gagman.
Oui, effectivement. Oui.
Ça me sidère, je crois qu'on l'a vu ensemble et oui, on n'a pas ri une seule fois.
Non, c'est tout est raté, hein. Oui.
Alors enfin, bon, là, je l'ai vraiment vu, c'est Ouija, et je n'aurais vraiment pas dû, et je le savais. Même Marine m'a prévenu 3 mois à l'avance. Alors c'est un film d'épouvante produit par Michael Bay, autre signe à éviter en fait. Alors un film terne et sans enjeu, donc au bout de 5 minutes, on sombre dans un état léthargique, attendant vaguement quelques sursauts. Et même pas. En fait, Ouija peut se voir décerner la palme du film d'horreur le plus soporifique depuis très très longtemps.
Eh bien, comme il sort ce 6 mai, inutile d'aller le voir, c'est bien ça. Et inutile pour Clovis Cornillac. Alors on avait la possibilité, en plus d'aller poser des questions à Clovis Cornillac, hein, puisqu'on a vu le film en avant-première il y a déjà 15 jours. Et on a décidé de ne pas en parler, finalement, et de ne pas laisser Clovis Cornillac s'expliquer sur cette première comédie qui est vraiment ratée. Enfin, je crois que le jeu n'est pas bon, le scénario n'est pas bon. Or qu'à la base, un couple en fait, qui est séparé par une cloison, ça aurait pu être intéressant. Mais là, ça ne le fait pas du tout.
Bah, voilà. C'est un film qui aurait pu être intéressant s'il avait été réalisé il y a 60 ans. On aurait pu faire une comédie à la Lou Beach ou à la Billy Wilder. Mais aujourd'hui, ça me semble complètement dépassé de faire ce type de comédie.
Et c'est pourquoi nous avons choisi plutôt de laisser parler Merzak Alouache, réalisateur algérien, pour le film Les Terrasses.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique, invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
Dans Le Repenti, Merzak Alouache sondait les traumatismes de la guerre civile et voilà qu'il prend de la hauteur et s'installe sur les terrasses de quartiers populaires d'Alger. Rythmé par les 5 prières de la journée, on va de toit en toit et on découvre une vision dure de la ville et du pays par un cinéaste qui fait des allers-retours entre la France et l'Algérie. Nous l'avons rencontré à Montpellier il y a à peine une semaine. Je veux bien qu'on commence par cette première idée finalement d'imposer un film par un décor. Il y a Laurent Cantet qui l'a fait, c'est amusant, enfin, d'ailleurs parce que les deux films vont sortir en 2015. Laurent Cantet l'a fait, à Cuba, et puis vous le faites donc en Algérie, et vous aussi, vous prenez plusieurs terrasses. C'est pas qu'une seule terrasse, c'est plusieurs horizons finalement.
Oui, c'est un film où le début c'était le décor. J'ai décidé de tourner ce film sur les terrasses, et j'ai écrit mon histoire... l'histoire qu'on voit dans le film, les histoires qu'il y a dans le film, après avoir découvert ce décor. En fait, je ne l'ai pas découvert, puisque dans plusieurs de mes films, j'ai déjà tourné sur des terrasses à Alger. Enfin, les terrasses d'Alger me fascinent un peu. D'abord, elles me fascinent parce que Alger est construite sur des collines. Et donc, souvent, quand on est même pas sur une terrasse, mais... à la fenêtre du 6e étage d'un immeuble, on peut voir des terrasses d'autres immeubles, etc. Bon, voilà. Et donc, à l'époque, dans mes premiers films, les terrasses jouaient pratiquement le rôle qu'elles doivent jouer, quoi. C'était des terrasses. Alors, c'est la ville européenne et la Casbah qui est une construction turque, mais ce n'est pas la nouvelle ville d'Alger qui s'est construite autour. J'ai tourné que dans la ville européenne, ancienne, et la Casbah encore plus ancienne. C'est la première fois où en fait j'écris un film comme si j'écrivais 5 courts-métrages. C'est un film, on appelle ça maintenant un film choral. Pour des raisons de budget, j'ai tourné le film en 11 jours, 2 jours par terrasse. Et je pense que c'est la configuration du décor qui m'a permis de tourner comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on avait 2 jours sur une terrasse, on ne savait pas ce qui allait se passer après. Il y avait toujours un risque que quelqu'un d'autre vienne nous dire « vous arrêtez » ou des voisins qui n'aiment pas le cinéma. Ou on a eu par exemple un voisin, disons, islamiste, qui est venu quand même nous dire qu'on faisait du bruit, etc. Bon. Mais donc il ne fallait pas rester longtemps. Donc sur la terrasse de Notre-Dame d'Afrique, on est resté 3 jours, sur les autres terrasses, 2 jours. Donc c'est une économie incroyable. Et puis on travaillait comme ça, en équipe très réduite. Et ce qui était bien, c'est que pratiquement, je n'ai pas été obligé d'utiliser des lumières.
Vous le dites, hein, les repérages, ça a sans doute nourri un personnage, parce qu'il y a un moment où effectivement, il y a un personnage qui vit dans un cagibi, donc qui vit sur la terrasse et qui veut la privatiser d'une certaine manière, et qui pourrait interdire un mariage. Donc là, on est un peu dans la métaphore aussi de votre tournage qui aurait pu ne pas avoir lieu.
Oui, moi je tourne des films de fiction et je sais que quand je suis en Algérie pour préparer et mes films, souvent, même quand je tourne, la réalité dépasse la fiction. C'est-à-dire que les problèmes ensuite qu'on voit dans cette ville sont vraiment... Il y a de quoi faire beaucoup de films, quoi. J'essaie de montrer, à travers une fiction, une certaine réalité d'un pays. Donc, bien sûr, dans d'autres villes, ça ne se passe pas comme ça. Dans la campagne, dans le bled, ce n'est pas pareil. Mais il y a les mêmes problèmes. C'est-à-dire que, à travers ces personnages, moi, j'essaie de montrer une désespérance. Il y a un désespoir, il y a une désespérance. Et le résultat de la désespérance, c'est la violence. Donc, c'est un film, je m'aperçois que, sans le vouloir, que c'est un film qui commence lentement avec ces histoires qui nous amènent d'un quartier à l'autre, qui commence doucement, et petit à petit, la violence s'installe. Alors, bien sûr, cette violence, elle est là, au quotidien. Et quand on est sur les terrasses, on sent qu'elle est rythmée par ces appels à la prière, qui sont en principe des appels à la tolérance, puisque on dit venez, venez prier, c'est l'heure de prier, venez à la félicité, etc. En principe, c'est des moments où on est bien avec soi-même, etc. Et on s'aperçoit qu'en fait, chacun est en train de faire son petit boulot. C'est-à-dire que ces appels à la prière, pour tous ces gens, ne sont que des sons. C'est une sonorité comme ça qui... Ouais, une routine. C'est une routine qui a presque plus de signification.
C'était le réalisateur Merzak Alouache pour le film Les Terrasses qui sort ce 6 mai.
Si vous aimez les essuie-glaces et les tranquillisants sur pellicule...
Cinérama...
Je suis allergique.
Tout commence dans le vaste hall d'un hôtel hongrois dans lequel des dizaines de joueurs d'échecs s'affrontent. Un jeune homme entre, visiblement en retard et l'air vaguement perdu. Normal, il vient de boire l'intégralité d'une bouteille de tequila et de parier qu'il pourrait malgré tout remporter le titre de champion de France. Attention, spoiler, il y arrive. Cal Fournier, c'est son nom, à 22 ans et ne vit que pour les échecs. Avec ses coéquipiers, une bande de geeks aussi géniaux qu'immatures et très portés sur la beuverie, ils passent d'hôtel en hôtel au gré des tournois. Dans un premier temps, on vit à leur rythme, plutôt effréné, et on découvre que les échecs sont véritablement un sport comme un autre. Esprit d'équipe, stratégie de match, rivalité de sponsors, entraînement incessant et surtout une angoisse persistante. Ils ne peuvent que devenir les meilleurs et continuer à vivre de leur passion ou échouer et revenir à une vie normale à laquelle ils n'ont jamais été habitués. Il est également en question dans le tournoi de la rivalité homme-femme, ce qui donne à Lou Delage, qui fait un des rôles principaux, l'occasion d'une excellente diatribe sur la théorie du genre que je ne résiste pas à partager avec vous.
Putain, mais comment tu peux être aussi fin sur un échiquier aussi con dans la vie? Non mais je rêve. À ton avis, pourquoi il y a de plus en plus de femmes dans l'armée ou de femmes mobilisées?
C'est pas pareil.
Putain, t'imagines que c'est dû à une mutation génétique? Tu te dis pas que c'est grâce à l'évolution des mœurs, non?
Je dis juste que le cerveau des hommes est plus adapté pour jouer aux échecs, Lou.
Ah ouais, t'es en train de dire que les hommes sont plus intelligents que les femmes?
C'est pas ce que j'ai dit.
T'es complètement misogyne.
C'est pas de la misogynie, mais c'est pas un hasard si les petits garçons sont naturellement plus attirés par les échecs.
Mais c'est pas naturel! On est conditionnés! Les petites filles, on leur offre des dinettes pour jouer bien sagement à la maison, et les petits garçons, on leur offre des ballons de foot. À ton avis, tu l'as développé comment, ta vision spatio-machin truc de mes couilles?
On va dans la chambre, et au passage, tu m'expliques pourquoi est-ce qu'il y a une seule femme qui a dépassé les 2500?
Ouais, je vais t'expliquer, ouais. C'est à cause de mecs comme toi, parce qu'à force de nous faire croire qu'on est moins intelligente et moins douée que vous, on finit par le penser.
D'accord, mais toi, t'as pas été conditionné, toi? Ton échiquier, tu l'as eu au même âge que moi. T'as joué autant de temps aux échecs que moi, voire plus. Pourquoi est-ce que moi je suis meilleur?
Parce que quand on a commencé à jouer, et qu'on avait le même niveau, en toi on voyait un futur génie et moi une mignonne petite fille qui s'amuse à jouer à un sport de mec. Parce que quand t'avais 13 ans, t'as le numéro 2 mondial qui est venu te chercher pour faire de toi un champion, pendant que moi je me démerdais toute seule avec mes bouquins. Parce qu'en tournant, on commente tes parties et moi on me mate le cul. Personne n'en a rien à foutre de ce que je fais sur un échiquier. Toi le premier, tu crois que je m'en rends pas compte? Toi et tes potes à couilles, vous pouvez pas imaginer une seconde que je peux rivaliser avec vous. Mais je l'ai le niveau. Victor, il le verra et je rentrerai dans l'équipe de France.
Bum. Donc, Élodie Namer, la réalisatrice forte d'un parcours atypique, s'est totalement immergée dans cet univers unique. Anciennement journaliste de télé-réalité, elle a choisi de basculer dans le monde des compétitions d'échecs. Je ne sais pas si vous imaginez la différence intellectuelle qu'elle a dû subir. Et à sujet austère, film pop, la réalisatrice a fait le pari risqué de dépeindre au mieux cet univers singulier sans jamais filmer un échiquier. Elle met donc le paquet sur le montage, la musique, les décadrages, ce qui n'est pas pour autant une garantie de mise en scène soignée. La surenchère des faits visuels n'est donc pas toujours de bon goût, à force de vouloir montrer les joueurs d'échecs comme des rockstars. Le film se charge parfois des pires clichés, des teen movies. L'ensemble aussi entre clips d'électro bon marché et thriller fantastique. Mais le sujet reste passionnant. Le tout est parfois un petit peu cliché, un petit peu gros sabot, mais ça reste quand même un premier film très prometteur et très intéressant.
Merci Marine, c'était donc le tournoi.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps.
Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou!
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Manu, tu n'as pas eu le temps de parler de Roger Corman, mais tu reviendras la semaine prochaine pour nous en parler.
Oui, effectivement. Et avec aussi The Pyramid, un film d'horreur.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Cinérama. Cinérama. Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.